Et oui, cette figure, c'est Théodore Ozen. Qui était-il? C'est ce que nous propose de découvrir Marie-Christine Leblanc. Elle vient de lui consacrer un livre intitulé « Théodore Ozen, l'or et l'audace ». C'est aux éditions Le Papillon Rouge. On va le parcourir ensemble. Bonjour Marie-Christine Le Leblanc.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir bravé le froid et l'horaire matinal pour venir nous voir en studio ce matin. Alors, vous êtes professeur de français, professeur au lycée Ozen. Ici à Toulouse, Ozen, justement, ça ne s'invente pas. Vous allez nous dire pour quelles raisons, d'abord, vous avez souhaité vous pencher sur Théodore Ozen.
Oui, alors j'ai eu envie de découvrir cet homme du 19e siècle. Comme vous l'avez rappelé, je travaille au lycée Ozen depuis une quinzaine d'années. Et il se trouve qu'il y a 8 ans, on avait monté un projet dans l'idée de commémorer le bicentenaire de sa naissance. Il est né en 1814. Et à cette occasion, donc, j'ai travaillé avec un collègue d'histoire, également une réalisatrice toulousaine, Emmanuelle Schiss. On avait fait un petit film à cette occasion avec les élèves pour découvrir qui est Théodore Ozen et les traces de sa présence dans la ville de Toulouse.
Et oui, et alors, et en plus de ça, vous allez probablement confirmer ce que je vous dis, il est assez méconnu, Théodore Ozen, quand bien même à Toulouse, il existe un lycée et une rue qui lui est consacrée. Si on va dans sa fiche Wikipédia, tout juste, on y découvre qu'il était banquier adjoint au maire de Toulouse. Pour quelles raisons on l'a un peu oublié, on ne sait pas grand-chose de lui?
Oui, alors vous le faites justement remarquer, peu de gens connaissent la vie de cet homme. Pour une raison, c'est qu'il n'a pas eu de descendance. Il a épousé en 1842 Mélanie Jeanne Roch, qui était issue d'une famille qui habitait le quartier de la Bourse, fabricant de rouennerie, tissu des toiles. Mais malheureusement, et je pense que c'est un des drames de sa vie, il est mort sans descendance. Le couple n'a pas pu avoir d'enfants.
Et les enfants et les descendants étant ceux qui ont à charge de raviver la mémoire, c'est ça que vous dites?
Absolument. Absolument. Et on va lui rendre hommage jusqu'à la guerre de 14. Il faut savoir que la rue Ozen a été percée en son honneur. Sur la plaque, on peut bien lire que c'est un bienfaiteur de la ville. Mais après la guerre de 14, tous ceux qui l'ont connu sont morts. Il n'a pas de descendance. Il n'a vraiment aucune famille sur Toulouse.
Ah oui.
Puisqu'il faut savoir qu'il n'était pas toulousain d'origine. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cet homme, ce mécène de la ville, est tombé dans un relatif oubli.
Alors, vous avez choisi la biographie romancée pour ce livre consacré à Théodore Ozen et dont on parle ce matin. On va entrer dedans. D'abord, un mot peut-être, Marie-Christine Le Leblanc, sur votre méthode de travail. Quels matériaux de recherche avez-vous utilisé à votre disposition, surtout?
Voilà. Alors, ça a été une des difficultés.
Ah bah
il faut
oui.
savoir qu'on n'a pas d'archives du 19e siècle. Le premier matériau, et je dirais presque le seul grand matériau, c'est la thèse de Paul Ferron, Théodore Ozen, mécène toulousain. Donc, j'avais trouvé le livre au CDI de mon lycée, le lycée Ozen. Et c'est dans cette thèse que j'ai trouvé les renseignements les plus nombreux sur les étapes de sa vie, sur ses différentes fonctions dans la ville. Alors ensuite, une deuxième source, j'ai travaillé à la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse. Et là, j'ai trouvé un certain nombre de discours. Alors, des discours prononcés par Théodore Ozen lui-même, notamment un discours qu'il avait fait parce que son grand rêve, c'était la construction du canal qui aurait relié les deux mers. Alors, ça a été un de ses grands rêves et une de ses grandes déceptions, d'ailleurs. Voilà, et également des discours d'hommage hein, qui lui ont été rendus, en particulier celui du comte de Rességuier, de Fournier, voilà, qui m'ont donné quand même pas mal d'indications sur l'homme.
Et des hommages, puisqu'on va le voir, hein, de son temps à lui, donc ces dates, ce sont 1814-1898, sous son air à lui, si je puis m'exprimer ainsi, c'était une personnalité ici à Toulouse, on va le voir. Alors pourtant, hein, rien ne le prédestinait à ça, on va le voir. La première partie de votre livre s'intitule « S'élancer », hein, ça fait un peu écho à la façon du petit garçon Auvergne, fils de caviste parisien, à prendre son destin et à gravir les échelons, et surtout, je crois, hein, vous allez me le confirmer, à s'extirper de son environnement familial modeste et qui lui pèse.
Voilà. Alors, il faut savoir, donc, c'est le fils d'un marchand de vin hein, qui habitait dans le quartier Notre-Dame à Paris. Et il va quitter l'école très tôt, hein, puisqu'il quitte l'école à l'âge de 15 ans. Et là, il va devenir ce qu'on appelle commis au 19e siècle. Hein. Mmh. Il va travailler chez un marchand de laine. Il va se former sur le tas. Et puis, voilà, il va prendre son envol. Hein, il va quitter le milieu familial et il va partir sur les routes. Alors, on va perdre un petit peu sa présence hein, et on va le retrouver à Strasbourg dans un magasin qui s'appelle La Nuée Bleue, hein, un magasin qui vend des lainages et c'est un jeune homme consciencieux hein, et qui malgré tout a une certaine ambition. Il est très intelligent, Théodore Rosen.
Il est très intelligent et alors on découvre que c'est un peu le hasard en fait hein, qui le conduit à Toulouse. Il est d'abord passé à Figeac, il est allé à la foire de Figeac vendre il est drapier, enfin il est dans les tissus. Hein.
Il vend des tissus, hein, tout ce qu'on appelle le commerce de la bonneterie. La bonneterie, c'est tout le commerce qui concerne les tissus avec des mailles. Hein, ça va être les bas, les écharpes, les foulards, les bonnets, etc.
Et alors il arrive à Toulouse un petit peu par hasard. Il y entre par la porte Saint-Cyprien, tout près de nos studios. Qu'est-ce qui le fera rester à Toulouse ?
Alors, ce qui va le faire rester, bon, d'abord, il découvre une ville qui le charme, hein, une ville qui est en pleine métamorphose, en pleine mutation. Hein. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, hein, Toulouse se transforme. Hein, on va construire les grands boulevards, on essaye de moderniser aussi la ville. Alors, même si Toulouse ne connaît pas la révolution industrielle, hein, comme d'autres grandes villes de France, il n'empêche que il y a beaucoup de constructions. Donc, ça le charme, je pense qu'il y voit aussi tout le potentiel. Hein, hein, alors, je pense que c'est quelqu'un qui était très audacieux, hein, et notamment dans ses méthodes de vente, dans le commerce. Hein. Si vous prenez les publicités de ces deux premiers magasins, hein, de ces deux grands magasins, alors le premier qui va s'appeler Au Bonnetier Parisien, ouais. Le second à la Ville de Paris. Alors, si vous regardez les titres de ces magasins, on retrouve Paris à chaque fois.
Bah, bien hein, sûr.
Donc, il y a cette...
C'est assez vendeur.
C'est assez vendeur. Hein, donc, je pense que ça a participé aussi au succès. Hein, quelqu'un qui venait de Paris. Et surtout, il va mettre dans ses publicités prix fixe. Hein, des prix fixes. Or, il faut savoir qu'au XIXe siècle, quand on vend, on fait pas mal de troc hein, et on ne trouve pas forcément des étiquettes avec les prix. Donc ça va aussi participer à son succès. Et s'il ouvre un second magasin, c'est que le premier a très bien marché.
Ils étaient où ces magasins ?
Alors, le premier magasin, il se trouvait dans la rue Saint-Rome, hein, au milieu de la rue Saint-Rome. Et le second magasin se trouvait à l'angle de la place de la Trinité et de la rue des Marchands. Hein. Ça va vraiment être son quartier de prédilection, hein, la rue Saint-Rome, le quartier de la Bourse.
Alors, à vous qui nous retrouvez, qui nous rejoignez, nous parlons de Théodore Rosen. Un livre lui est consacré. Je suis en compagnie de son auteur, Marie-Christine Lebsault-Leblanc, également professeur de français au lycée Rosen, justement. Alors, on s'y presse, hein, Marie-Christine Lebsault-Leblanc, au bonnetier parisien. On s'y presse pour acheter le fameux bonnet Rosen. Et dans cette période, c'est une période faste hein, pour Rosen, il prend de plus en plus de responsabilités. Il devient un notable, hein. Le petit commerçant gravit tous les échelons jusqu'à devenir gestionnaire de l'argent des autres. Il va devenir directeur du Crédit Agricole. Comment est-ce qu'il est passé de bonnetier à directeur du Crédit Agricole ?
Alors, comme vous le rappelez, hein, son succès, bon, il va vendre ses deux magasins pour la somme de l'époque de 300 000 francs. Hein, donc, il s'est enrichi. Et puis, c'est un homme qui devient un homme public. Hein, c'est un homme qui s'intéresse beaucoup à la chose publique, hein, à la ville de Toulouse. Et on lui fait confiance. Hein, c'est quelqu'un qui est sûr, qui est sérieux, qui est intelligent. Hein. Et donc, en 1868, hein, on va le contacter. Donc, c'est le Crédit Agricole, hein, qui s'appellera le Crédit Agricole Impérial. Il y a 15 maisons de banque, hein, sur la place de Toulouse à l'époque. Et là, voyant qu'il gère très bien ses affaires, on va lui confier la direction du Crédit Agricole.
Hein. Mmh, mmh. Il recevra aussi la Légion d'honneur.
Oui, en 1891, tout à fait.
Il recevra la Légion d'honneur. Et puis, il a quand même, au-delà des peines hein, familiales, personnelles, donc vous l'avez dit, sa femme n'arrive pas à avoir d'enfant, ça donne lieu à plusieurs fausses couches plus ou moins dramatiques. Son plus gros échec, si on peut dire, c'est de ne pas avoir réussi à devenir maire de Toulouse parce que le bonnetier parisien, bah, il a marqué parisien. De fait, on lui renvoie ses origines. Hein.
Tout à fait. Hein. Alors, effectivement, il a aspiré à être maire hein, de Toulouse. D'abord, il a été adjoint au maire. Hein. Il a été adjoint au maire pendant 10 ans. Hein, il va être président du conseil municipal. Hein. On va le retrouver dans les distributions de prix dans les écoles primaires. Hein. Ce qui me fait dire qu'il était attaché aux enfants. Hein. Savoir d'ailleurs qu'il a travaillé aussi comme au prud'homme et qu'il a travaillé pour qu'on réduise le travail des enfants. Hein. Autre chose aussi qui m'a d'ailleurs marqué, hein, j'ouvre une petite parenthèse, c'est en faveur des femmes. Il a essayé de créer une loi pour que les femmes puissent être élues au tribunal de commerce.
Ah hein. Oui.
Et oui, j'ai trouvé ça, hein, donc 19e siècle tout de même, quelqu'un qui se soucie et qui se soucie, je dirais, avec des actions. Hein, c'est pas uniquement une bienveillance, hein, mais il essaye d'œuvrer hein, pour limiter le travail des enfants, hein, pour que les femmes soient élues. Voilà, c'est quelqu'un qui, à mon avis, avait un vrai souci hein, de tous ceux qui, au 19e siècle surtout, hein, n'étaient pas bien considéré par la société. Hein.
Alors on a l'or, sa fortune qu'il s'est faite, hein, on l'a bien compris tout seul, à la force du poignet. On a l'audace avec ses différentes prises de position et décisions, notamment dans son commerce. Ça, c'est pour le titre de votre livre. Sur la plaque qui lui est dédiée ici à Toulouse, on parle de bienfaiteur. Hein. C'est à la fin de sa vie qu'il devient le mécène pour lequel il est connu. Qu'est-ce qu'il a donné à la ville de Toulouse?
Alors, si vous regardez dans son testament, hein, l'un des premiers articles, c'est qu'il dit hein, qu'il va léguer à la ville de Toulouse. Hein. Voilà, je vous lis très rapidement, hein, parce que le testament fait 4 pages, il est très détaillé, hein, et il dit « Je donne et lègue à la ville de Toulouse tous les immeubles que je posséderai au moment de mon décès et qui seront ou devront être rendus libres. Elle en emploiera le montant, si elle les vend ou les revenus, à augmenter le bien-être des pauvres, à améliorer le sort des malheureux, afin que le produit soit exclusivement consacré à toutes œuvres charitables dont je confie le choix à la sagesse et à la conscience de ses administrateurs. » Donc, il faut savoir qu'il a racheté un an avant sa mort l'hôtel d'Acesa.
Et oui.
Donc, je recommande aux auditeurs de se rendre. D'abord, c'est un lieu magnifique, l'hôtel d'Acesa. Il y a une cour et au fond, il y a une plaque hein, qui lui rend hommage parce que dans la fin, il fait des grandes opérations de banque. Hein. C'est le dernier tiers de sa vie, hein, où il va faire beaucoup de bénéfices, il a beaucoup d'argent, et il rachète cet hôtel d'Acesa qui était un petit peu tombé en décrépitude, hein, ça servait notamment d'entrepôt, et il va le donner pour que les académies savantes, dont l'Académie des Jeux Floraux, puissent siéger dans ces lieux magnifiques. Hein.
Alors les mauvais esprits pourraient dire qu'il a donné parce qu'il n'avait pas de descendance. En réalité, hein, toute sa vie, on le voit dans votre livre, il est quand même porté, il a une attention à l'autre manifeste. Hein.
C'est manifeste, c'est pas une posture, hein, c'est ce que je voudrais dire. Et c'est pour ça que c'est un homme qui m'a beaucoup touchée. Certes, hein, il va devenir banquier, mais banquier, c'est le dernier tiers de sa vie. Hein, tout le reste de sa vie, il aura travaillé et il a un vrai souci des autres. Hein, il sera directeur des hospices civils, bureau de bienfaisance. Hein, Toulouse va connaître des inondations au 19e siècle qui vont beaucoup le toucher, le meurtrir. Et il est tout le temps là. Hein, il est là pour secourir, et secourir pas seulement hein, par des écrits, hein, mais secourir aussi par des legs. Hein, il fera beaucoup de legs, bah, notamment hospice civil, dont il sera administrateur. Hein.
Et alors, un dernier mot, hein, il était un peu poète, en tout cas, il avait une âme un peu spirituelle, c'est ce qui le faisait pas trop aimer l'ambiance familiale. Il n'a jamais laissé d'écrits, justement, Théodore Rosen.
Alors, des écrits personnels, hein, type de création, de la poésie ou autre, non. Par contre, hein, donc il va siéger, hein, à la fin de sa vie à l'Académie des Jeux Floraux, il assistera aux séances, hein, de poésie, et puis il sera passionné par un poète qui s'appelle Élie Saurin. Donc j'ai trouvé un discours qui est un hommage à ce poète. Hein. Donc c'est un autodidacte, mais c'est un homme de goût. Il s'intéresse beaucoup à l'art. Il va léguer d'ailleurs à la ville de Toulouse 18 tableaux. On en trouve au musée des Augustins. Alors je le relate dans mon livre. Hein. Il est là où il vit. Hein. Il y a des tableaux qui sont accrochés au mur. Il montre aussi l'exposition L'Union artistique. Hein. Donc c'est un homme très attachant parce que je dirais qu'il c'est un touche-à-tout de génie. C'est un homme qui est bienveillant, mais qui a aussi une vraie culture.
Merci beaucoup. On sent que votre personnage vous a passionné, Marie-Christine Lesault-Leblanc. La vie de Théodore Rosen est à retrouver dans le livre que vous lui consacrez. C'est aux éditions Le Papillon Rouge. Théodore Rosen, L'or et l'audace à Toulouse. Merci à vous.
Je vous remercie.